Radio Rage, voix de jeunes, une radio libre pour une parole libre.
Chères auditrices et auditeurs de la web radio du Rage, voix de jeunes, bonjour. Après le lancement de la web radio du Rage, le 3 mai passé, à l'occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse, on a tracé un petit programme qui sera enrichi bien sûr et augmenté plus tard avec le temps. Donc c'est un programme contenant une émission hebdomadaire qui s'appelle « Invité de la semaine ». Il s'agit d'un entretien avec une personne du monde politique, économique, associatif, artistique et du monde intellectuel. Dans ce premier numéro, nous avons l'honneur d'accueillir ici sur le plateau de la web radio de Rage, M. Dahou Jerbel. Pour rappel, M. Dahou Jerbel est un historien, maître de conférences en histoire à l'université d'Alger et Bouzeria. Il est aussi directeur de la revue NACD, d'études et de critiques sociales, dont elle est l'un des fondateurs. Bonjour, Monsieur Dahou Jerbel, et merci d'avoir accepté notre invitation pour aborder au cours de cet entretien une partie de notre histoire.
Bonjour, Fersaoui, bonjour aux amis de Raj.
Comme vous le savez tous, l'Algérie vient de commémorer il y a quelques jours, une date importante dans l'histoire algérienne. Donc, on a commémoré le 71e anniversaire des massacres du 8 mai 45, faisant des milliers de morts. Donc, au moment où le monde fête la victoire contre le nazisme, les Algériens payent un prix très cher. Personnellement, même à chaque fois que je lis des témoignages ou des déclarations des anciens cadres de PPA, MTLD, toujours la date du 8 mai 45 est un repère. Toujours, c'est comme s'il était un virage décisif dans la trajectoire du mouvement national. Donc, quel était l'impact des événements du 8 mai 45 sur la trajectoire du mouvement national en Algérie?
Oui, alors d'abord, c'est effectivement un événement important, un événement historique dans l'histoire contemporaine de l'Algérie, mais il faudrait peut-être, pour les auditeurs, remettre en contexte le 8 mai 45, 1945, de façon à ce qu'on comprenne bien en quoi il a été un événement historique. Parce qu'avant d'être un événement historique, il a été un événement traumatique. Comme vous l'avez indiqué, avec le nombre des victimes qui n'avait jamais été égalé depuis le 19e siècle. Parce que le 19e siècle, on a eu des événements qui ont été aussi meurtriers par rapport aux Algériens que l'événement du 8 mai 45, nous y reviendrons. Donc, dans un premier temps, il me semble important de remettre en contexte les manifestations du 8 mai 45 qui correspondaient aux manifestations de l'IS pour fêter l'armistice qui venait d'être annoncé, l'armistice qui mettait fin à la Seconde Guerre mondiale et qui était considéré comme la victoire des forces alliées sur les alliés du nazisme et du fascisme allemand, italien et japonais par la suite. Donc au fond, ce qui se passe en Algérie, il faut le rappeler, c'est que nous sortons d'une période où, avec la Seconde Guerre mondiale, la France a été occupée par l'Allemagne. La France a été vaincue et occupée par les forces allemandes, et au niveau du gouvernement français, le régime a changé puisqu'il a été installé, le maréchal Pétain, au gouvernement de Vichy. La capitale de la France, à l'époque, était plus Paris, mais c'était Vichy. Ce gouvernement pétainiste, allié aux Allemands, a commencé à réorganiser l'administration publique, la vie politique en France et par conséquent aussi en Algérie. Donc au fond, en Algérie, le gouvernement général à Alger, a été installé comme un gouvernement général allié aux Allemands et dépendant du maréchal Pétain. Ce gouvernement général de l'Algérie a commencé à changer les personnels politiques, et en particulier les administrateurs civils, les grandes administrations centrales et régionales de la France. Il a commencé à les changer, et par conséquent, il a commencé à bouleverser les alliances locales et les alliances régionales entre les notables qui avaient fonctionné avec le gouvernement précédent, les clientèles qui avaient fonctionné au niveau local, au niveau régional et au niveau central avec les Français, par de nouvelles alliances, par de nouvelles, disons, féodalités, par de nouveaux personnels, qui soient politiques ou qui soient, disons, à caractère religieux ou à caractère culturel. Donc, en fait, ces changements de régime en Algérie coloniale ont provoqué des troubles. Et dans les études que j'ai pu mener à partir des archives de Constantine, du département de Constantine de l'époque, on va s'apercevoir que les élites locales, qui étaient des élites alliées au gouvernement français de la Troisième République, ces élites locales ont été remises en question, elles ont perdu leurs pouvoirs locaux, elles ont perdu leurs intérêts et leurs privilèges, et elles ont commencé à contester le régime en place. Donc, quelque part, des bouleversements se passent en Algérie, qui sont le basculement des anciennes alliances en dissidence. Donc, la dissidence a commencé dès les années 40, en pleine Seconde Guerre mondiale, avec des refus de conscription, des gens qui échappaient à la conscription obligatoire, et en période de guerre, échappaient à la conscription obligatoire, c'est une désertion et donc pouvait être passible de peine de mort. D'ailleurs, il faut rappeler que pendant cette période, Amar Bourras, qui a été un des fondateurs du SMA, pas Amar Bourras, Mohamed Bourras, a été arrêté, condamné à mort et exécuté pour rébellion contre le système français, contre l'ordre colonial. Et donc, au fond, d'autres responsables, d'autres représentants élus, qui étaient jusqu'alors des collaborateurs du système colonial français, ont été arrêtés, emprisonnés ou déportés dans des camps en Algérie ou à l'étranger. Donc, au fond, la situation intérieure en Algérie commence à basculer vers une sorte de dissidence généralisée dans les campagnes. Et c'est ça qui est en fait un signe avant-coureur. C'est un signe avant-coureur où on voit un changement d'atmosphère par rapport au gouvernement colonial, par rapport au système colonial, et une sorte de rébellion contre les représentants de l'autorité et de la souveraineté française en Algérie. Et un des indicateurs que vous connaissez bien, pendant cette période, c'est ce qu'on a appelé le manifeste pour les libertés, qui a été rédigé par un groupe de personnalités algériennes, dont Farhat Abbas, et qui a été présenté au gouverneur général de l'Algérie en 1943. Et dans ce manifeste, pour la première fois, les élus algériens, qui étaient en fait des personnalités plus ou moins intégrées au système colonial, en tout cas modérées, qui ne contestaient pas la souveraineté française, ont commencé à revendiquer la participation au gouvernement de l'Algérie et d'une Algérie algérienne. Donc, au fond, les idées d'un changement de système, d'un changement de la relation entre l'Algérie et la France commençaient à germer et à s'exprimer. Et c'est ce qui a donné ensuite, après le refus du gouverneur général de recevoir le manifeste, la constitution d'une association, l'association des Amis du Manifeste et de la Liberté, qui était en fait la plus grande association qui ait connu l'histoire contemporaine de l'Algérie du point de vue du nombre des adhérents, puisque le PPA, qui était clandestin, interdit, a appelé tous ses militants dans toutes les régions du pays, en particulier dans les régions de l'intérieur, à rejoindre les Amis du Manifeste et de la Liberté.
Parce qu'il n'appelle pas directement à l'indépendance de l'Algérie.
Il n'appelait pas directement à l'indépendance, mais il appelait à une sorte de gouvernement de l'Algérie par les Algériens. C'est le texte même du manifeste. Participation des Algériens au gouvernement de l'Algérie. Donc au fond, le programme du PPA allait beaucoup plus loin, puisque le programme du PPA, c'était la séparation de l'Algérie avec la France, un gouvernement algérien, un parlement algérien, une armée algérienne.
Donc l'indépendance.
Comme il ne pouvait pas le faire d'une manière publique, légal, puisqu'il était interdit, donc il a appelé tous ses militants à rejoindre les AML, les Amis du Manifeste et de la Liberté, et à ce moment-là, la majorité en fait des adhérents aux AML, c'était des PPA, c'était des militants du PPA, et une partie, donc, qui est la partie fondatrice, était fidèle à Farhat Abbas, au docteur Saaden et à d'autres représentants de ce courant qui était autrefois la Fédération des élus. Donc au fond, cette association qui a regroupé près de 100 000 adhérents, c'est énorme. Vous êtes une association, donc vous pouvez avoir une idée de ce que ça représente. Donc au fond, arrivé au 8 mai 1945, donc la fête précédemment a été organisée le 1er mai 1945 à Alger. Il y a eu déjà des affrontements, il y a eu déjà des victimes à Alger. Donc l'atmosphère était une atmosphère tendue. Et à Sétif, comme à Galma, comme à Saïda, mais particulièrement à Kharrata, donc l'événement a basculé. L'événement a basculé, la manifestation a basculé dans un affrontement qui a pris des dimensions, une ampleur jamais connue auparavant au XXe siècle. Parce que, comme je vous ai dit, des événements de cette nature se sont passés au XIXe siècle, à l'époque des insurrections. On y reviendra. Donc c'est ça qui est important de rappeler, c'est qu'au fond, il y a une sorte de glissement progressif de l'opinion publique, je prends ce terme pour faciliter les choses, en Algérie, particulièrement au sein des Algériens, qui considèrent qu'en fait, le moment est arrivé de revendiquer un changement de régime en Algérie, et en particulier pour les nationalistes, l'indépendance. Pour les modérés, une forme d'autonomie du gouvernement par rapport au gouvernement français.
Ça, c'était après les événements de...
C'est avant. Avant, ça, c'est... Avant 1945. Donc, on arrive au 8 mai 1945, et particulièrement à Sétif et à Galma. Pourquoi? Parce que, et Kharrata, comme vous l'avez indiqué, il faut juste rappeler que, quand on dit Sétif et Kharrata, ce n'est pas le même dispositif de la répression. Parce que la répression dans la ville de Sétif, et la répression dans la région de Kharrata, dans les massifs des Babor, plus généralement, ont été très différentes, et je vais y revenir, et c'est pour ça qu'il faut insister sur la nature de cet événement pour en savoir, pour en connaître les conséquences politiques par la suite. Donc au fond, à Sétif, il y a eu une sorte de glissement, puis une rupture d'équilibre entre les manifestants et la répression. Les manifestants ont voulu profiter de l'événement pour annoncer, au vu de l'opinion publique internationale, que les Algériens voulaient aussi bénéficier des conséquences, des retombées de la victoire sur le nazisme. Puisque la charte atlantique, celle qui a constitué la base politique de l'alliance contre le nazisme, contenait dans ses principes le principe de l'autodétermination des peuples. Donc
ils ont
repris un des principes de la charte atlantique, donc des puissances alliées, défendu par les États-Unis, qui eux-mêmes soutenaient en sous-main les revendications de Farah Abbas et du manifeste pour les libertés en Algérie. Donc ils ont profité de cette occasion pour lever leur slogan, pour annoncer, c'est-à-dire qu'en fait, ce que revendiquaient les Algériens, c'était l'indépendance de l'Algérie. Il y a eu l'incident où un policier a voulu arracher un drapeau algérien, indépendantiste, levé par un militant du PPA, pour pouvoir, ramener la manifestation à l'idée première qui était celle d'une manifestation pour l'armistice du mai 45 et non pas pour l'indépendance de l'Algérie. Et là, ça a dégénéré, les gens ont résisté, il y a eu des tirs d'armes à feu, il y a eu des victimes, et de là, comme un effet, une traînée de poudre, ça a dégénéré, il y a eu des actions contre des Européens de la ville de Sétif, certains ont été assassinés, massacrés, mais immédiatement après, on a donné donc l'assaut contre toute la manifestation, on a tiré à vue sur tout ce qui bougeait, mais l'événement a débordé la ville de Sétif, a débordé de deux façons la ville de Sétif, parce que les populations dans les campagnes ont entendu parler le bruit de la répression, les informations ont circulé très vite. À l'époque, ça circulait aussi, malgré le fait qu'il n'y avait pas de téléphone ou d'internet. Et donc, ils se sont soulevés, ils ont manifesté, mais pas contre les colons européens qui étaient près d'eux, mais ils ont manifesté à leur tour pour l'indépendance. Et pour ne pas trop m'étendre, il faut rappeler que cette région est une région qui a été déjà marquée, la région de Medjana, Borj Bouarerich, la région du Sétifois, la région des Babors, ils ont déjà été marqués, avec la Soumam, par la répression de 1870, c'est-à-dire ce qu'on a appelé l'insurrection de Mokrani. Donc il y a une sorte de mémoire collective qui est inscrite sur la terre, qui est inscrite dans la région, et ça, en fait, c'est revenu à la surface. C'est-à-dire qu'au fond, il y a une sorte de manifestation de colère, de protestation contre la présence coloniale. Ça, donc, c'est devenu un événement important qui a entraîné une mobilisation de masse. Et c'est ça qui est nouveau. Ce qui est nouveau aussi, c'est que la répression, et je reprends ici les termes d'un certains historiens français comme Jean-Pierre Péroulou ou Jean-Louis Planche, qui ont travaillé sur Sétif et qui ont travaillé sur Guelma. Voilà ce qu'il dit, Jean-Pierre Péroulou. Il dit que dans les campagnes de la région de Sétif, c'est-à-dire Kharrata, les Babors, 4 régiments de Goum, soit au total 800 soldats irréguliers, levés dans les tribus marocaines, les tabors marocains, comme on connaît, ayant par leur statut droit de pillage, et 2 régiments de tirailleurs sénégalais furent engagés dans la région de Sétif pour pacifier les djebels, jusqu'au 24 mai 45. Donc il n'y a pas le 8 mai 45. Il y a une répression qui a duré jusqu'au 24 mai 1945, alors que les meurtres d'Européens cessèrent le 12 mai. Le général Henri Martin estime à 40 000 le nombre des insurgés, cité par Jean-Charles Chauffret dans les archives de l'armée. L'aviation fut utilisée, les bombardiers français, sur les Douars, entre le 9 mai et le 19 mai. 12 bombardiers B-26 vont effectuer 39 sorties, dont 15 de bombardement et vont lâcher 38 tonnes de bombes. 12 chasseurs bombardiers A-24 vont effectuer 39 vols à basse altitude. 5 bombardements et vont lâcher 3 tonnes de bombes. Le croiseur, même la marine française, a tiré avec ses canons sur les bâbords.
Oui,
sur
la région du port de Béjaïa.
Sur la région de Tsougtnine.
Melbou, exactement.
Voilà. Et de là, ils ont tiré sur le massif. Hein. Donc, le croiseur du Guétrouin tire à 10 reprises dans la région de Kapaukas, le 10 et le 11 mai. Enfin, l'artillerie va tirer 58 obus. L'artillerie de campagne, c'est-à-dire. Alors, vous voyez, l'aviation, la marine, l'artillerie de campagne, tout ça a bombardé. Et quand on bombarde, on ne vise pas des cibles individuelles. On vise des mechtas, on vise des douars, on vise des villages.
Tout le monde
et on rase.
Voilà.
C'est pour raser. Donc, au fond, il faut rappeler tout ça. Et comme il y a eu au nord et au nord-est de Sétif, une véritable guerre contre des civils. Et c'est ça l'événement, à mon sens. C'est que pour la première fois, la répression n'a pas touché des militants.
Elle a touché même les civils.
Elle a touché tout le monde, c'est-à-dire les hommes, les femmes, les enfants, voilà, comme coupables d'un événement, d'un meurtre qu'ils n'ont pas commis. Ça, c'est extrêmement important, et vous allez voir après quand vous allez me poser la question des conséquences.
Oui, c'est pour cela l'impact de ces événements.
C'est en faisant cela, ce retour sur les faits, que vous comprenez la portée politique. Vous voyez? Et d'abord les faits, c'est l'historien qui vous apporte les faits. Donc, une véritable guerre contre des civils, sur les opérations militaires des différents corps d'armes, des milices, en plus, des unités régulières de l'armée, de la marine, de l'aviation française, il y a eu des milices coloniales, des Européens qui se sont constitués et qui, en particulier, dans deux localités, à Chevreuil et à Saint-Arnaud, vous connaissez près de Sétif, Saint-Arnaud, actuellement, je crois que c'est l'Ulma.
L'Ulma,
sous la direction des administrateurs civils, leur activité va se répandre comme à Guelma, comme à Sétif. Donc au fond, et il n'y a pas ici seulement une répression des auteurs des meurtres dont on a parlé, mais il y a une répression contre toute une population. Et là, ceux qui vont être impliqués dans cette répression, c'est pas seulement l'armée régulière, et je le répète, mais c'est aussi les civils européens. C'est aussi les civils constitués en milices, en porteurs d'armes, et qui vont faire des ratissages dans leur région, la région des fermes, des coloniales, la région des centres coloniaux. Ils vont aller faire du ratissage, ils vont aller nettoyer la région de tout ce qui les contestait.
Voilà, donc ça veut dire, comme vous venez de citer, donc c'est toute une opération, toute une armée contre une population, des civils.
Donc, toute une armée alliée à des civils européens.
Voilà, donc c'est pour cela, ça veut dire ces événements, effectivement, ont poussé des gens qui ont porté le mouvement national de avant 45 à changer un peu la stratégie de lutte et de convaincre qu'il faut aller, il faut passer à une autre étape de lutte et d'organisation.
Absolument. Ici, la répression qui a suivi les événements du 8 mai 45 dans la région de Sétif, dans les montagnes des Babors, dans la région des Babors et dans la région de Guelma, donc à cette caractéristique qu'elle a repris les modalités, qu'elle a repris les procédés de la répression du 19e siècle. Alors, il faut juste pour l'auditeur qu'on rappelle que ce n'est pas un incident isolé. C'est du point de vue de la répression, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui a toujours existé en Algérie, c'est la pensée coloniale française qui va s'appliquer à la domination des Algériens et qui va s'appliquer pas seulement en 1945, mais qui va s'appliquer déjà avec la guerre de conquête. Je vous juste pour rappeler à l'esprit des auditeurs quelques déclarations de généraux qui ont dirigé l'armée française, celle de la conquête du 19e siècle, puis celle de 1945. Le général de Saint-Arnaud, à qui on a donné le nom de Saint-Arnaud, près de Sétif, qu'est-ce qu'il disait en 1841 en réprimant la résistance de la région de l'émir Abdelkader? Il disait « Nous resterons jusqu'à la fin de juin à nous battre dans la province d'Oran et à ruiner toutes les villes, toutes les possessions de l'émir. Partout où il trouvera l'armée française, les flammes à la main. » partout il trouvera l'armée française, les flammes à l'âme. Le colonel de Montagnac, à qui on a donné aussi le nom d'un village près de Tlemcen. Voilà comment il faut faire la guerre aux Arabes. Toutes les populations qui n'acceptent pas nos conditions doivent être rasées. En un mot, anéantir tout ce qui ne rentrera pas à nos pieds comme des chiens. Le général, le colonel Montagnac. Le général Bugeaud, connu, qui va devenir maréchal Bugeaud. 1845. J'entrerai dans vos montagnes. Je brûlerai vos villages et vos moissons. Je couperai vos arbres fruitiers. Et alors, ne vous en prenez qu'à vous-même. Le général l'Allemand et le général Augereau. En 1871, la répression de ce qu'on a appelé l'insurrection d'El-Mokarani et de Sheikh Al-Haddad. Il dit, la répression doit être brutale, profonde et durable.
Donc pratiquement c'est le même discours.
Il faut que ça marque les esprits pour qu'ils ne lèvent plus la tête.
Voilà, donc, il faut à tout moment...
Et donc ce qui s'est passé le 8 mai 45, ce n'est pas nouveau. C'est quelque chose qui est de l'ordre de la pensée coloniale, de la répression des mouvements de libération. Et pour 1871, et juste un petit rappel, la répression va être aussi terrible dans toute la région de la Medjana, de la Soumam, et de tout ce qui entoure les lieux de la répression, car on la voulait brutale, profonde et durable, comme il a été dit, hein, par les généraux qui dirigeaient la répression. Elle va toucher 313 communautés territoriales, c'est-à-dire 313 douars. La répression de 1871. Ils vont subir le séquestre. 500 000 hectares de terre vont leur être confisqués. Une indemnité de guerre de 45 millions de francs, soit 70% de leur capital, et le cantonnement de la plupart des tribus, c'est-à-dire la réduction de leurs terres, etc. Donc au fond, voilà ce que ça représentait à la fois dans le contexte, dans l'histoire de la moyenne durée, le 8 mai 45. Maintenant, si vous voulez, on peut revenir à la question de l'impact et des conséquences politiques. Alors, au fond, la population de la région, d'une manière générale, la population algérienne, hein, de tout le pays, elle a compris une chose, c'est qu'au fond, l'ennemi des Français, c'est pas seulement le nationaliste du PPA qui demande l'indépendance. L'ennemi des Français, c'est tout Algérien. Puisque la répression n'a pas visé les insurgés, mais elle a visé toute la population. Donc au fond, la conscience d'une présence hostile aux Algériens, d'une présence hostile à toute velléité d'indépendance des Algériens, elle s'est exercée, elle s'est exprimée d'une manière claire pour tous les Algériens, qu'en fait, la revendication du PPA pour l'infisal tem, l'istiklal, pour la séparation et pour l'indépendance totale de l'Algérie, était une revendication juste. Et c'est la raison pour laquelle, progressivement, le PPA, parti clandestin, est devenu un parti populaire. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est les conséquences politiques. Les conséquences politiques du côté de Farhat Abbas, du côté de la fédération des élus, de ses alliés, des notables et des représentants des Algériens dans les assemblées françaises, locales ou régionales, que ce soit les communes mixtes, les communes de plein exercice, les délégations financières, les conseils généraux, qui faisait partie de la direction des Amis du Manifeste de la Liberté, mais qui était réduit à être une minorité par l'arrivée massive des militants du PPA. Ces représentants de l'aile modérée, ce qu'on pourrait appeler l'aile modérée réformiste du nationalisme algérien, donc vont dire, nous avons été débordés, on nous a mis devant un fait accompli, quelque chose qu'on n'a pas voulu, c'est-à-dire un fait insurrectionnel. Nous, ce que nous voulons, ce sont des réformes. Et donc, ils ont décidé que politiquement, il fallait qu'ils se séparent des éléments du PPA, extrémistes, radicaux, en créant l'Union démocratique pour le manifeste algérien, l'UDMA. Donc, l'Union démocratique pour le manifeste algérien, c'est la réponse politique des modérés aux événements du 8 mai 45. Au niveau du PPA, c'est encore plus compliqué parce qu'au niveau du PPA, la direction dans son ensemble était emprisonnée. Elle était à Al-Harrach, la direction du PPA. C'est-à-dire Messali Hach, c'est-à-dire Bilqassem Rajef, c'est-à-dire aussi d'autres dirigeants. Ils étaient donc arrêtés, ils ne pouvaient pas contrôler, diriger, prendre des décisions à chaud sur ce qui s'est passé à Sétif. Donc à Sétif, quand les informations arrivaient à Alger, les gens rapportaient dans les prisons à la direction du PPA ce qui se passait. La discussion, c'était, bon, il est possible que ce soit un soulèvement général. Donc un mot d'ordre de soutien à cette insurrection dans la région de Sétif a été lancé à tous les militants du PPA, partout. Et donc en Kabylie, en particulier, des éléments clandestins qui avaient refusé la conscription obligatoire, qui avaient pris le maquis, qui étaient poursuivis par l'armée française pour désertion, avaient commencé à mener des actions armée contre des représentants de l'établissement français, contre les représentants des collaborateurs français, contre des caïds ou contre des auxiliaires de l'armée française dans la région de Kabylie. Donc pour eux, la guerre de libération a commencé le 8 mai 45. Et un peu partout, les gens ont commencé à se préparer à lancer des actions armées contre les intérêts français en Algérie. Mais finalement, la répression dont je viens de vous parler a tué dans l'œuf, a écrasé toute velléité d'insurrection générale. Et la direction du PPA, à ce moment-là, a fait marche arrière et a lancé un mot d'ordre d'arrêt de l'insurrection générale. D'appeler au calme. C'est-à-dire un contre-ordre. Voilà, c'est le terme qu'on a utilisé, un contre-ordre d'insurrection générale. Or, il y avait, comme je vous ai dit, il n'y avait pas téléphone, il n'y avait pas Internet, et pour que l'information arrive à ceux qui avaient déjà pris les armes, qui avaient déjà commencé à mener des actions, et qui sont poursuivis pour meurtre, qui sont poursuivis pour rébellion armée. Donc cela, on dit, nous, pas de contre-ordre. On a commencé.
On est dedans.
On est dedans, on va pas revenir en arrière. Donc des gens comme Karim Belkacem ont continué à être des insurgés, rebelles, porteurs d'armes dans leur région. Ça, il faut jamais
l'oublier. Donc c'est à partir de là que l'idée, ça veut dire de s'organiser et de mener,
Absolument. Donc en fait, deux stratégies se sont mises en place là et ont commencé à être à l'œuvre au sein même du PPA. Une stratégie qui est celle de la direction politique qui dit on ne peut pas aller à l'aventure, appeler à une insurrection générale si on n'est pas organisé et structuré à l'échelle nationale. Sinon, ça va aller dans tous les sens et on va subir le sort qu'ont subi les insurrections du 19e siècle. Et donc, il faut organiser, mobiliser les masses, politiser les masses pour qu'elles puissent avoir conscience de l'enjeu et ensuite passer à la lutte armée. Mais ceux qui sont déjà passés à la lutte armée disent il faut d'abord lancer l'insurrection et ensuite organiser dans le cadre des maquis. Voilà les conséquences politiques.
D'accord. Donc voilà, donc vous avez exposé tout un enchaînement des événements bien avant 45, même après 45. Donc j'aimerais bien aussi, ça veut dire aller poser une question sur un autre volet. Donc que reste-t-il aujourd'hui de ces événements-là dans la mémoire collective?
Alors voilà. Tout à l'heure, vous parliez de commémoration du 8 mai 45. Donc il y a deux niveaux sur lesquels il faut vraiment rappeler les auditeurs. Il y a le niveau de la mémoire collective, qui est la mémoire collective de l'événement par ceux qui l'ont subi.
Oui.
C'est-à-dire une mémoire traumatique. ceux qui l'ont subi, il faut voir que partout, des villages ont été rasés, des populations ont été rassemblées, parfois jetées dans les ravins, par les...
Chez nous, il reste encore des grands-pères qui racontent comment ils étaient rassemblés.
Voilà,
comment...
ça c'est l'impact dans la mémoire collective et une mémoire transgénérationnelle. C'est-à-dire vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, vos grands-parents, vos parents vont porter cette mémoire-là à vous, vous la faire parvenir. Vous l'avez hérité quelque part.
Par le récit.
Par le récit. D'accord. Et c'est à la fois de l'ordre du conscient, mais aussi de l'ordre de l'inconscient. Ça agit parfois quand on a oublié, mais ça reste inscrit dans l'inconscient. Et il y a la mémoire institutionnelle. La mémoire institutionnelle, c'est la récupération par l'État ou par le politique, par les partis, de l'événement. Et là, ça devient le commémoratif. Ça devient les stèles, ça devient les monuments, ça devient... Et ça, c'est du rabâchage, c'est-à-dire ça n'a pas de sens. Ce qui est important, et je vais vous le dire pour moi en tant que personne qui a beaucoup travaillé sur la mémoire et qui a beaucoup travaillé sur l'événement, sur archives et sur témoignages oraux. Au fond, dans vos régions, dans nos régions, partout, de l'est à l'ouest, du nord au sud, il y a la mémoire des lieux, c'est-à-dire le lieu lui-même, la terre elle-même, la pierre elle-même, garde la mémoire. Et ce qui est intéressant, et qui m'a sauté aux yeux à un moment, alors que je m'y attendais le moins, c'est que dans ces régions, là où il y a eu les plus grands massacres, les plus grandes répressions, les bombardements où on a rasé les villages, etc., ben ces lieux-là sont devenus les lieux de la résistance de 1954-62. Ce sont devenus, pour certains, les lieux où se sont installés les postes de commandement de l'armée de libération nationale. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une mémoire, non pas dans les familles, mais il y a aussi une mémoire dans l'espace et dans le temps.
Oui, effectivement, donc il y a tout ce qui relève de la mémoire collective à travers le récit, le conte, même la
Absolument.
Chanson. Et ça veut dire ce qu'on rapporte de bouche à l'oreille. Mais
oui.
Pour l'histoire, tout ça, ça a fonctionné à un moment. Mais
oui.
Il ne peut pas fonctionner longtemps parce que les générations passent, les gens qui sont des acteurs commencent à partir. Il y a l'urgence d'aller à l'écriture de l'histoire.
Alors,
sérieusement.
Avant d'arriver à l'écriture, il y a une dernière conséquence. C'est que, comme vous l'avez dit, et dans ce que j'ai remarqué dans mon travail sur le mouvement national, les militants du PPA-MTLD, puis les militants du FLN et de l'ALN, ce que j'ai remarqué en posant la question pour tous les militants que j'ai enregistrés, je leur dis, qu'est-ce qui a provoqué votre passage aux politiques? Qu'est-ce qui vous a poussé à la conscience nationaliste et à la nécessité de la guerre de libération? Alors pour l'essentiel, pour tous quasiment, systématiquement, il y a eu deux événements. L'école française et le 8 mai 45. Donc le 8 mai 45 a permis en fait de faire le creuset de ce qui va devenir les fondateurs de l'Algérie indépendante. C'en est le 8 mai 45. C'est-à-dire leur conscience est née le 8 mai 45, et certains étaient des enfants. J'ai des témoignages ici, comme celui de Moussa Qbeili, comme celui de Zina Harraig, etc., dont les parents ont été victimes de la répression. Ils ont été arrêtés, torturés, pris dans des camions et envoyés dans des camps de regroupement, enfin dans des camps de détention dans le sud, etc. Et c'est là. C'est le récit extraordinaire parce que c'est un récit qui montre comment la population rassemblée de ces types voyait les convois de ces personnes qui avaient été arrêtées, torturées et déportées partir de ces types et pour d'autres destinations inconnues. Et ça, c'est un événement marquant, vous voyez. Et c'est à ce moment-là que sont nés ce qu'on pourrait appeler les militants nationalistes. Qui vont faire la guerre de libération.
D'accord. Donc, ça veut dire maintenant, ça c'est le récit en quelque sorte. Oui. Mais maintenant, on peut parler sur l'écriture de l'histoire. Oui. On a l'impression qu'on a 50 ans après l'indépendance, 54 ans, 71 ans après les événements de 8 mai 45. Mmh. C'est comme si on a l'impression qu'on a peur d'écrire, de s'asseoir autour de la table, de discuter réellement notre passé et de comprendre avec ses points positifs et négatifs. Mmh. Parce que c'est important pour la génération actuelle. Et oui. ça va nous éviter de commettre les erreurs passées et aussi de vivre à l'avenir des mêmes événements.
Alors écoutez, moi je vais vous dire une chose, c'est que avant de présupposer que telle ou telle volonté politique, disons, s'impose à nous et oriente notre réflexion ou notre désir de volonté de garder en mémoire un certain nombre d'événements constitutifs, fondateurs. Il y a lieu de rappeler que dans les universités, et il y en a beaucoup dans la région,
le département de l'histoire aussi.
L'université de Sétif, il y a l'université de Bouira, il y a l'université de Bidjaya, il y a d'autres universités dans la région. Mais combien de départements d'histoire vont promouvoir dans la recherche, dans les masters, dans les doctorats, le travail local? C'est-à-dire qu'on peut faire des monographies. On peut faire des monographies, comme vous avez dit, sur les gorges de Kharrata, sur la région de Kharrata. On peut faire des monographies sur Ganzet, sur Bni Wertilen. On peut faire des monographies sur Sétif. On peut faire des monographies sur Galma et sa région pour savoir et recueillir et sauvegarder la mémoire collective. Or, là, rien n'est fait. Donc, avant de parler du politique, il faut parler du travail qui doit être fait. Il y a un travail qui doit être fait sur archives, il y a un travail qui doit être fait à partir des témoignages, comme vous avez dit, des grands-parents, de ceux qui ont encore peut-être vécu l'événement et qui sont encore vivants, et ce travail n'est pas fait. Alors comment vous voulez qu'après, on puisse savoir, sinon répéter par la forme commémorative, par la forme d'un rituel creux, quelque chose qui s'est passé auparavant, mais qui reste dans la mémoire des gens. Donc il faut absolument interpeller les autorités universitaires, les responsables des départements d'histoire, les responsables des universités algériennes, pour que ce travail soit fait. Parce que si c'est pas eux qui le font, les archives existent, mais c'est les archives des administrateurs civils français. Ce sont les archives des commandements militaires français, mais nos archives à nous, où sont-elles?
Voilà. Donc justement, on revient sur la question des archives. Maintenant, à chaque fois, on revendique la récupération des archives qui sont, ça veut dire, en France. Mm-hmm. Je pense qu'il y a une partie des archives qui sont chez le, ça veut dire, en France. Il y a d'autres archives qui sont ici en Algérie. On n'en parle pas de ceux qui sont en France, mais en Algérie, est-ce qu'ils sont accessibles réellement par les historiens?
Alors, c'est un problème qui s'est posé et reposé à chaque fois. Dont il y a eu des articles dans la presse, il y a tout un débat autour de cette question. Il faut dire que les archives sont, disons, codifiées, réglementées par des lois. Et d'une manière générale, les archives, sont de l'ordre du domaine public. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas une propriété privée de l'État. C'est, du point de vue juridique, les archives font partie du domaine public. Et en ce sens, tout citoyen algérien a un droit de regard, un droit d'accès à ces archives. Maintenant, il y a une réglementation concernant les modalités d'accès à des archives particulières. Ça, c'est dans tous les pays du monde. Mais le problème en Algérie, c'est que ces lois ne sont pas respectées, ne sont pas appliquées. Ces règlements ne sont pas...
C'est la pratique.
La relation aux archives n'est pas une relation de droit, mais c'est une relation de personne. Si vous n'avez pas l'autorisation du directeur en personne des archives nationales, vous ne pouvez pas consulter les archives, vous ne pouvez pas photocopier des archives, vous ne pouvez pas photographier des archives, comme il se fait dans beaucoup d'autres centres d'archives dans le monde. Donc au fond, tout se passe comme si ce fonds d'archives était soumis à la discrétion des autorités gouvernementales et de ceux qu'ils désignent à la tête des établissements d'archives dans le pays. Donc, au fond, le problème de l'accès aux archives, c'est un problème de, disons, de droit. Et le problème du droit d'accès aux archives, c'est le problème du droit d'accès au savoir, du droit d'accès à l'information. Et donc, en dernière instance, c'est un problème démocratique. Si vous n'êtes pas considéré comme un citoyen, vous n'avez pas le droit de regard sur ces archives. C'est une propriété privée de celui qui les administre et de celui qui les gère, et non pas un bien qui vous appartient.
Voilà, donc c'est toujours, ça veut dire, je peux revenir à la question, ça veut dire il y a la tendance d'avoir peur de connaître l'histoire, parce que 50 ans après, toujours, on essaye de ne pas dire les vérités. Donc on parle d'Abin Ramdan, l'affaire de Mssali El Hadj et d'autres affaires. Mmh. À chaque fois, on essaye de prolonger ce débat.
Oui, c'est fatalement la conséquence de ce qui se passe, parce qu'à partir du moment où la jeune génération que vous représentez ne peut pas avoir accès au savoir sur la base des archives, donc des faits, à partir des traces de ces faits dans les archives. À ce moment-là, c'est l'opinion, c'est la polémique, c'est les présupposés, c'est les apostrophes, c'est l'opprobre contre certains, c'est l'héroïsation et la sacralisation d'autres. Donc on rentre dans un domaine qui est le domaine de l'opinion publique et non pas dans le domaine de la connaissance.
Ok. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui nos milliers d'étudiants qui font de l'histoire, de la recherche, ces dizaines d'universités, de faire un travail de recherche? Vous êtes enseignant.
Alors là, vous ouvrez un autre chapitre, parce que ces milliers d'étudiants qui sont en département d'histoire, je parle que de ça parce que je le connais depuis 45 ans, ces milliers d'étudiants qui sont au département d'histoire ne font pas de l'histoire. Ces milliers d'étudiants qui sont dans les départements d'histoire, ce sont des flux de jeunes Algériens diplômés qu'on gère pour pouvoir les parquer dans des établissements universitaires dans l'attente de les jeter dans l'espace public à la recherche d'un emploi. Ils rentrent et ils sortent comme ils sont rentrés. C'est-à-dire que pour l'essentiel, l'enseignement supérieur n'existe plus. Et donc la recherche scientifique dans le domaine de l'histoire n'existe presque plus, sauf exception.
Justement, c'est ce qu'on a constaté même. Ça veut dire que tous les travaux de recherche, à part quelques historiens qu'on compte au bout de... ça veut dire qu'on connaît, qui ne sont pas nombreux, pratiquement beaucoup de recherches sont faites ailleurs par des historiens étrangers, soit des Algériens qui font des études à l'étranger.
Parce qu'il y a des zones d'ombre ou des domaines ou des sujets qui sont tabous. Je vous donne un seul exemple très simple. J'avais une étudiante qui est venue me voir pour me demander de l'aider à trouver un sujet de recherche pour son mémoire de magistère. Elle est de la région de Sol-Roslen et de la Rouat. Je lui ai dit, pourquoi tu ferais pas une monographie sur le messalisme dans la région? Parce que là, le messalisme et le conflit entre le MNA et la LN, FLN, a été, disons, catastrophique pour la région. Il y a eu des victimes innombrables par milliers dans la région, qui combattaient à la fois contre l'armée française, mais qui ensuite se confrontaient dans des luttes intestines. Il dit, pourquoi tu ferais pas de monographie? Ce sujet est interdit.
C'est un sujet tabou.
C'est un sujet tabou. Parler, faire un travail sur Messali ou le messalisme ou les messalistes dans une région, c'est un sujet tabou. On sait qu'en Kabylie, ça a été le bastion du messalisme. Mais aujourd'hui, vous allez à Tizi Ouzou, vous allez à Bdjaya, à Bouira ou à Sétif, aucune étude n'est faite en histoire sur le messalisme dans la région. Mmh. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, hors enregistrement, avant le 8 mai 45, en avril 1945, il y a eu des manifestations à Ksarchilela pour la libération de Messali, qui a été réprimée avec mort d'homme. Donc, mais ça n'est pas rentré dans l'histoire. C'est pas rentré dans la mémoire collective, à part la mémoire collective des anciens messalistes.
D'accord. Un autre point, c'est-à-dire à chaque commémoration d'un événement historique, il y a on parle le sujet de la récupération des archives de France qui revient toujours en surface. Donc, qu'en est-il réellement de cette question? Vous,
il y a,
en tant qu'historien,
il y a des négociations,
vous avez accès...
Il y a eu des négociations, il y a eu des accords ou des contre-accords depuis des dizaines d'années, depuis l'indépendance. Mais le problème de la récupération des archives, c'est d'abord, comme je vous ai dit, le préalable pour moi. C'est que les autorités qui gouvernent, qui dirigent, qui administrent le fonds d'archives algérien puissent faire leur travail correctement et qu'ils ne soient pas une force de répulsion de toute volonté d'accéder à un fonds de réserve algérien. À partir du moment où on a bien conservé, bien classé, bien enregistré et qu'on a ouvert la possibilité d'accéder à ces archives ici, à ce moment-là, on pourra parler de la récupération des archives qui se trouvent à l'étranger.
À chaque commémoration, il y a la question de la repentance et demande de la reconnaissance des crimes qu'a commis la France en Algérie. Vous parlez même dans votre exposé des milliers, ça veut dire toute cette guerre menée contre les civils et tout. Qu'en est-il, ça veut dire, qu'est-ce que vous en dites sur cette demande de reconnaissance et de repentance?
Alors, je vais vous répondre à deux niveaux. Premier niveau, c'est la commémoration. La commémoration est devenue rituelle. Et comme vous le savez mieux que moi, parce que vous allez dans vos régions et vous voyez que partout, chaque ville, chaque village va dresser une statue. Une statue, un héros qui est sacralisé, hein, héroïsé, une figure de la région, non pas une figure nationale. Hein, je cite pas des cas, mais... Et ces statues sont affreuses, sont hideuses. C'est-à-dire, en fait, elles tuent. Dans le rituel de la commémoration, il y a une sorte de protocole de meurtre contre la personne, contre ce qu'elle a représenté, contre l'esprit de la lutte. En figeant dans une statue, en figeant dans une stèle quelque chose, on tue la chose. Ce qui est important, c'est donc l'esprit de la chose et non pas la chose. C'est l'esprit de la personne et non pas la personne.
Comment on peut promouvoir l'esprit de la
Absolument.
Personne?
Et pour la question du prix à payer, pour les meurtres de masse et pour les massacres commis par la France. Je pense que la première chose à faire, comme je vous l'ai dit, je le répète, pour répondre à votre question, il faut d'abord que nous rendons à ceux qui ont péri, à ceux qui ont sacrifié de leur vie et de leur liberté pour l'indépendance d'Algérie, qu'on leur rende ce qu'on leur doit. C'est-à-dire, ce qu'on leur doit, on a une dette par rapport à eux, c'est de faire ce travail-là de mémoire. À partir des archives écrites et à partir des archives orales. Et après cela, on peut ensuite voir la question. Parce que la dette française, si on arrive, par hasard, à faire payer la France sonnant par des espèces sonnantes et trébuchantes. Ça veut dire que ça classe, il n'y a plus de dette. C'est ça. C'est ça que vous voulez?
Alors qu'il y a une dette interne qu'on doit...
D'abord, il y a une dette qui est une dette morale.
Morale, oui.
Elle n'est pas une dette qu'on doit négocier par argent. C'est-à-dire qu'au fond, c'est comme quelqu'un qui a mené une guerre de libération, qui a sacrifié sa liberté, qui a sacrifié sa famille, qui a sacrifié sa vie. Ah ben, il va falloir le payer. Donc, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas que la France paye les victimes. Le problème, c'est que la France reconnaisse qu'elle a une dette morale par rapport à l'Algérie.
Il y a l'importance, même l'urgence d'écrire notre histoire et de l'aborder d'une manière sérieuse et courageuse. Et de l'aborder avec ses points positifs et négatifs. Et c'est important pour nous. Ça nous permet de tirer des leçons, des expériences du passé. Et surtout d'éviter les erreurs et les cassures à l'avenir. L'écriture de l'histoire, à mon avis, permet de réconcilier les Algériens avec eux-mêmes et avec leur histoire. Et quand on parle de l'histoire, il n'y a pas uniquement la période coloniale. On a l'histoire millénaire qu'elle doit être abordée d'une manière sérieuse et profonde. Il y a aussi l'histoire récente, post-indépendance, qu'on doit prendre au sérieux. Il y a beaucoup d'événements qui se sont passés et malheureusement jusqu'à présent, ça veut dire il y a peu d'écrits qui sont faits sur cette période. C'est juste avant de clôturer cet entretien, donc on va parler un peu sur le dernier numéro de NACD que vous avez publié, c'est le numéro 32. Donc vous l'avez appelé communauté, communautaire et communautarisme. En arabe c'est Taifa. Donc c'est un numéro qui traite la question du communautarisme parce que ces derniers temps, par exemple en Algérie, on voit que cette notion de l'État national commence à disparaître. Il est menacé avec l'émergence des mouvements séparatistes d'ordre ethnique, religieux, identitaire et tout. Donc parlez-nous un peu de ce numéro. Je pense qu'il est disponible.
Oui, il est disponible dans les librairies principales, Alger, Constantine principalement et Bijaya aussi. Donc voilà. Ce que je peux dire de ce numéro, c'est qu'il vient à la suite d'un numéro qui s'intitulait « La nouvelle donne géostratégique » dans la région du Maghreb, du Mashraq, et dans la région subsaharienne. Ce numéro sur la nouvelle donne géostratégique a montré qu'en fait, la cible principale des nouvelles interventions étrangères, c'était la destruction des États-nations et des États territoriaux, pour pouvoir avoir accès à des sources stratégique, important, décisif, de matières premières et de richesses et d'autres influences. À ce moment-là, pour pouvoir détruire ces États nationaux et ces États territoriaux, il fallait des leviers. Et ces leviers, c'est principalement l'affaiblissement du pouvoir de l'État central. L'État central qui a été en quelque sorte le résultat du mouvement de libération nationale. Donc il s'est constitué ainsi avec l'indépendance en tant qu'État-nation. État-nation qui veut dire un État qui représente à la fois la nation algérienne, mais un État qui représente un régulateur central logique, une sorte de tiers arbitre par rapport à toutes les contradictions, les intérêts qui existent dans le pays.
C'est pas dans le sens jacobin.
C'est pas dans le sens d'une sorte d'idée commune, de force qui soit force exclusive par rapport à toutes les autres forces. C'est une sorte de tiers arbitre. C'est ça la question démocratique des États classiques contemporains. Or, cet État a pu jouer ce rôle pendant, disons, une vingtaine d'années, une trentaine d'années en Algérie. Puis, avec les crises successives qui se sont développées depuis les années 80 et 90, avec le terrorisme, donc cette capacité de l'État de faire de la régulation, de faire des arbitrages, de représenter l'intérêt général, de représenter l'ensemble des Algériens, s'est affaiblie. Et dans cet affaiblissement, les intérêts locaux, les intérêts particuliers ont pris le dessus sur l'intérêt général. Et parmi les intérêts particuliers, les intérêts locaux, il y a une résurgence et une revivification des solidarités premières. Puisque la solidarité nationale entre citoyens, dans le cadre d'organisations associatives, dans le cadre d'organisations syndicales, dans le cadre des partis nationaux, donc c'est affaibli, c'est désintégré à ce moment-là, des solidarités de voisinage, des communautés de voisinage, à caractère religieux ou à caractère sportif, ou à caractère, disons, de secte, hein, se sont constituées pour pouvoir assurer, la satisfaction de la demande sociale, devenue forte dans des périodes de pénurie, dans des périodes de crise. Et c'est là qu'on voit ressurgir des formes de solidarité qui avaient disparu, comme les solidarités claniques, les solidarités villageoises, les solidarités religieuses, confrériques, hein, ou autres, qui ont pris le dessus sur les nouvelles formes de solidarité contemporaine qui s'étaient mises en place, créées et développées dans les années 60 et 70. Alors à ce moment-là, on voit apparaître des notions, des discours, des pratiques qu'on a cru révolues à jamais, dont les discours communautaristes. C'est-à-dire que petit à petit, les gens ont commencé à s'identifier, à se reconnaître, non pas seulement en tant que citoyens algériens, dans l'indifférence de leur appartenance locale, de leurs origines, mais ils se sont identifiés à des organisations à caractère politique ou à caractère parapolitique plutôt que politique, à caractère religieux ou parareligieux, et donc c'est cela a repris le dessus. Et l'un des événements les plus frappants, ce sont les événements de Rardaïa que tout le monde a suivi, avec ces affrontements meurtriers
entre
Mozabite et Chamba, ou entre soi-disant arabes et Mozabite. Mais qu'est-ce que ça veut dire cela? C'est des situations qu'on n'a jamais connues. Donc voilà, en gros, je crois que c'était un élément important parce que c'est un des leviers sur lequel sont intervenues des puissances étrangères, qu'elles soient occidentales ou qu'elles soient du Hijaz ou du Golfe, pour pouvoir désintégrer la capacité de l'État national, de l'État-nation ou de l'État territorial centralisé, de négocier un ordre intérieur et un ordre international. Parce qu'au fond, et en dernière analyse, et le dernier mot que je pourrais dire dans les minutes qui nous restent, c'est qu'en fait, un pouvoir souverain, un État souverain, il a deux obligations fondamentales. C'est d'assurer la sécurité intérieure et la sécurité extérieure de son territoire. La sécurité intérieure pour la population et la sécurité extérieure pour ses frontières. À partir du moment où il ne peut plus assurer cette sécurité, donc c'est des nouvelles formes d'intervention qui vont intervenir, qui vont agir pour pouvoir imposer de nouvelles souverainetés. Et ces souverainetés sont supragouvernementales et supranationales.
Ok, merci Monsieur Dahou Jerbel, merci pour ce débat. Donc, ça a été une rencontre.
Merci à vous de m'avoir invité à parler aux jeunes de.
C'est un autre devoir, même nous, j'espère qu'on aura d'autres occasions pour parler d'autres questions, en l'occurrence même ce numéro 32 de la revue NAQD. Donc on est arrivé à la fin de cette émission, on vous donne un autre rendez-vous prochain mois avec une autre personne, et merci, à la prochaine fois.
Merci.
Radio Rage, voix de jeunes, une radio libre pour une parole libre.